Hello, chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast, il est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret. On parle conseils, exercices, on détruit les mythes de l'équitation. Et au final, on a quand même les deux pieds dans la carrière. Alors qu'avec le podcast, au contraire, on prend de la hauteur et on s'inspire. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres et j'espère que nous trouverons des clés ou des axes de réflexion sur le lien qui unit un cheval à son cavalier. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui, pour cet épisode « C'est pas sorcier, les services et les honneurs », nous allons donc parler d'un lien cavalier-cheval un petit peu plus militaire puisqu'il s'agit de la garde républicaine. Jean-Philippe, mon invité, est adjudant dans ce corps de cavalerie depuis 28 ans. Des chevaux, il en a connu 5 au cours de sa carrière, et à chaque fois, leur duo a servi la France avec une confiance et une rigueur toutes militaires. Car être garde républicain ou cheval de la garde, c'est consacrer son énergie à des devoirs de service et d'honneur qui est la doctrine de la cavalerie. Par conséquent, en quoi consiste le rôle de la garde républicaine ? Comment devient-on garde républicain ou cheval de la garde? Quel entraînement faut-il vivre pour y parvenir? Et est-ce qu'un garde est propriétaire de son cheval? Et puis saviez-vous que les chevaux de la garde peuvent se faire autopsier, mais que jamais, au grand jamais, ils ne chargeront une foule, quand bien même ils sont capables de sauter par-dessus une voiture? De tout cela et de bien plus encore, l'adjudant Jean-Philippe nous parlera et nous racontera sa vie de gendarme à cheval. Il est temps de lancer l'épisode « C'est pas sorcier, les services et les honneurs ». Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
J'aurais dû dire bonjour adjudant,
tout c'est à fait.
Ça, de la garde républicaine.
Absolument.
Merci de m'accueillir sur votre stand à
Équitalion. Bienvenue sur le stand.
Je suis ravie que vous ayez pu me consacrer du temps parce que je pense que vous êtes très occupé à nouer du lien avec tous les cavaliers qui sont passionnés par ce que vous faites, par les missions de protection, par la représentation que vous avez. En plus, alors vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais on a quand même un costume d'apparat. Bon, je ne sais pas comment on dit.
Oui, c'est une grande tenue de service.
C'est une tenue de service et
voilà,
ça attire l'œil.
Grande tenue de service. Voilà, on en
le
est très fiers.
Le prestige de l'uniforme joue pleinement son rôle.
Merci.
Je souhaitais faire le podcast avec vous, Jean-Philippe, pour le côté lien cavalier-cheval et le lien aussi que vous pouvez avoir, vous, en tant que gendarme de la garde républicaine. Alors juste, si vous pouviez nous parler des missions de la garde républicaine, ce que vous pouvez faire dans les grandes lignes.
Oui. Alors, quand on parle de la garde républicaine, on parle d'une institution qui regroupe 3500 personnels militaires de la gendarmerie. Alors, ils sont militaires de gendarmerie, ils sont aussi gendarmes adjoints volontaires, ils sont également civils travaillant pour la défense. Voilà. Ces 3500 personnels sont répartis en plusieurs unités différentes, distinctes, dont le régiment de cavalerie.
D'accord.
Voilà, on a deux régiments d'infanterie pour des missions essentiellement de sécurité et d'honneur à pied. Voilà. On a également un escadron motocycliste, des motards. Pour faire un petit peu simple, l'escorte présidentielle. On les retrouve également sur le Tour de France.
Voilà,
ce sont
des
motards spécialisés qui ont une grande dextérité. Et donc, pour moi, le régiment de cavalerie. Voilà, et nous sommes 500 cavaliers. Dans le cadre de la garde républicaine, les missions, c'est honneur et sécurité. Alors, honneur pour les plus hautes instances de l'État. On va inclure dans ces missions d'honneur les différentes actions qu'on mène pour l'Élysée, pour les assemblées nationales, pour l'Assemblée nationale, pour le Sénat, pour Matignon. Voilà, et pour les ministères qui ont droit à un certain niveau de protocole.
D'accord, voilà. Ok.
Certaines visites officielles, on va faire des services d'honneur pour un ministre de la Défense, par exemple, qui est en visite. Le protocole de l'Élysée déploie un certain nombre de services.
Je pense aussi, pour toutes les missions d'été où il y a des gendarmes ou des policiers à cheval, c'est aussi vous.
Absolument. Alors là, on rentre donc dans la sécurité.
Okay.
C'est un terme très, très général qui regroupe plein de missions différentes. Donc pour les cavaliers, sécurité publique à cheval. Et alors là, c'est quand même pas loin de 80% de notre temps. Donc on va dire globalement, 20% de notre temps est consacré aux honneurs et 80% sont consacrés à la sécurité publique générale à cheval. Alors cette sécurité publique, on peut la répartir en plusieurs missions. On a des missions qui vont être attachées essentiellement sur Paris. Alors, on va parler de patrouilles dans les zones touristiques. On va parler aussi de services au moment sur les stades, sur le Stade de France, le Parc des Princes.
Manifestations sportives, voilà, des choses comme ça, d'accord.
Des concerts, des choses comme ça. Dès l'instant où on est face à une foule non hostile, une foule calme qu'il faut gérer, on est très fort dans ce type de mission-là.
Et le cheval aide, j'imagine, à gérer une foule.
Absolument. On pourra revenir sur l'avantage du cheval dans ces missions-là. Donc ça, c'est pour Paris. Et également, comme vous le faisiez remarquer, on est déployé sur le littoral français, alors le littoral atlantique, sur la Manche et sur la Méditerranée également. On va jusqu'en Corse au moment des périodes estivales. On renforce nos camarades de la gendarmerie départementale qui voient la population de leur site augmenter au moment des vacances.
Voilà. J'ai même vu pendant les vendanges que vous pouviez donner un coup de main.
On va donner un petit coup de main aux camarades qui se trouvent dans les régions viticoles essentiellement champenoises. Alors là, on vient aider. Globalement, on va patrouiller la journée pendant que nos camarades GD se reposent pour, eux, travailler la nuit à lutter contre essentiellement le vol de raisin, qui est une pratique malheureusement ancienne, qui pollue un petit peu l'activité des vendanges chez nos vignerons là, champenois. On vient prêter main forte en petites unités qui se répartissent sur le vignoble et également au moment des huîtres, qui est le même problème.
Il y a des
vols d'huîtres au moment de la récolte.
Activités.
Même dispositif, on patrouille la journée pendant que nos camarades départementaux, c'est-à-dire les gendarmes territoriaux qui sont sur les sites, eux se reposent un peu et eux travaillent la nuit pour éviter le vol.
Vous venez de m'apprendre qu'il y a des vols d'huîtres et des vols de raisins. Je découvre.
Et voilà.
Juste avant l'interview, vous m'aviez dit que ça faisait 28 ans que vous étiez garde républicain.
Oui.
Est-ce que vous avez des beaux moments à raconter
Oui. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on retient que les bons moments. Non, j'ai essentiellement des bons moments. D'abord, une grande satisfaction d'avoir pu concilier une belle carrière professionnelle, un vrai métier, voilà, Jean-Marc, avec une passion qui était l'équitation. Passion que j'ai d'ailleurs eu la chance de découvrir quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, grâce à mon papa qui était lui-même officier en gendarmerie et qui a donc fait quelques passages au régiment de cavalerie. C'est comme ça que j'ai découvert les chevaux, c'est comme ça que j'ai appris à monter à cheval grâce au cadet de la garde. Et donc du coup, je suis vraiment un enfant de la balle. J'étais dedans, et un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite et je suis revenu quelques temps après cet apprentissage au cadet. Je suis rentré en 91 comme gendarme auxiliaire à l'époque pour faire mon service militaire. Et j'en suis jamais parti, voilà.
D'ailleurs, comment devient-on un garde républicain ?
Ah, ça c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on devient garde républicain ? On est d'abord, avant d'être au régiment de cavalerie, on va être d'abord gendarme.
D'accord.
Il faut bien comprendre. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le stand. Beaucoup de jeunes sont surpris que nous appartenons à la gendarmerie nationale. Voilà. Donc c'est une subdivision. La garde républicaine est une subdivision de la gendarmerie nationale. Donc d'abord, avant d'être cavalier au régiment, il faut d'abord être gendarme. Alors pour ça, maintenant il faut son bac, voilà. C'était pas le cas à mon époque, mais maintenant, voilà.
Il faut au moins le bac, ok.
Il faut surtout réussir les épreuves du concours gendarmerie, qui ont lieu une fois par an en octobre. On est évidemment...
Ça vient de passer, alors la dernière session, du coup.
Oui, elle vient de se passer là. Ouais. On a une camarade sur le stand qui vient de passer les épreuves. Ça, une fois qu'on a réussi ces épreuves, on fait son école de sous-officier qui dure 12 mois. Donc on se transforme de la vie civile à la vie militaire, gendarmerie, et on sort sous-officier de gendarmerie. Pendant cette école, on se signale à sa hiérarchie comme équitant, comme titulaire au moins d'un galop 5. À partir de là, on demande à venir présenter les tests d'entrée au régiment. On est testé par le régiment, donc là, des camarades instructeurs qui s'emploient à vérifier le niveau équestre de...
Et c'est comment ? C'est comme un passage de galop ? On a une reprise à dérouler, par exemple ?
C'est un petit peu comme un passage de galop.
Ouais. Un parcours à faire, un parcours d'obstacles ? Ouais.
Alors, pas vraiment un parcours d'obstacles. Il peut y avoir un obstacle, pourquoi pas. Enfin, les instructeurs vont essayer de vérifier une attitude, une capacité... à rester à cheval.
D'accord. Comment vous vérifiez ça?
Il y a des techniques un peu ancestrales qui marchent bien. Non, on se coupe pas trop nos jeunes, mais quand même, on fait une vraie reprise. On va demander d'enlever les étriers, on va demander de marcher aux trois allures sans les étriers. Voilà.
D'accord.
Il suffit de faire quelques mouvements d'assouplissement et de mise en selle pour voir si effectivement nos jeunes
sont à l'aise ou pas.
Sont à l'aise, okay. N'ont pas peur. Celui qui s'arrête au milieu du manège après deux tours, il rentrera à la maison et il ne sera pas cavalier.
D'accord.
Voilà. Non, okay. on les scoupe pas trop fort non plus, mais tout de même, voilà, on cherche en fait des gens qui n'aient pas peur des chevaux Et ça, on va le vérifier dès le moment où on leur donne le matériel. Hein, voilà. On s'assure quand même qu'ils sachent mettre un harnachement complet sur un cheval, hein, sans qu'on ait besoin d'intervenir. C'est là encore la base. Ces tests-là, évidemment, on ne peut pas donner vraiment à l'avance un nombre de candidats dont on a besoin. On ne sait pas trop à l'avance, ça varie pas mal d'une année sur l'autre. C'est fonction des départs en retraite, c'est fonction des départs des camarades qui changent de subdivision d'armes, ça arrive, pour X raisons.
Il y en a qui quittent la garde républicaine.
Il y a quelques-uns qui quittent la garde républicaine en cours de route, qui ne font pas tout leur carrière. Ça paraît incroyable, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça arrive. Voilà. Il y a quelques gendarmes qui souhaitent réorienter leur carrière. Il y en a quelques-uns qui changent de métier complètement. J'ai connu des amis qui sont partis comme motards, par exemple.
Voilà,
qui
okay.
sont découverts. Pas d'autres passions, mais enfin voilà, qui voulaient tout changer. Et la gendarmerie nous offre cette possibilité-là. C'est là encore une grande chance. Voilà.
Je reviens sur le cheval, du coup, parce que vous disiez qu'il fallait vérifier que les aspirants, je ne sais pas si c'est le bon
terme.
Oui,
on peut les appeler comme ça. On va parler d'élèves gendarmes, hein, puisqu'en général, ils sont en école gendarmerie. Donc, ils sont élèves gendarmes.
Ok, donc les élèves gendarmes n'aient pas peur des chevaux,
oui.
Parce qu'en règle générale, ce sont des chevaux qui ont une certaine carrure.
Voilà. Alors ça, c'est ce qui surprend tout de suite. Enfin, les cavaliers qui viennent nous rencontrer et qui n'ont pas eu l'occasion de nous voir de près avant, ce qui surprend tout de suite, c'est la taille de nos chevaux.
Ce sont des selles français.
Ce sont des selles français qui sont achetées à environ 3 ans, entre 3 et 4 ans, avec une toise minimum d'1,65 m. Et là, évidemment, ça fait des chevaux qui, en moyenne, font 1,70 m minimum, enfin à peu près, hein, voilà, quelques records dans le régiment, 1,90 m et plus. Ça fait de très grands chevaux, voilà. Chevaux qui pèsent entre 650 et 700 kg. Donc ça peut surprendre. Et bien ça, c'est un très très bon moyen pour voir si nos cavaliers prétendants au régiment ont peur ou non à cheval.
J'avoue que moi, c'est un peu grand pour moi, par exemple. C'est beaucoup plus grand que moi, 1,66 m,
oui, oui.
Déjà.
Et puis alors, quand on leur demande de monter dessus sans l'aide de l'étrier...
Ah oui, bah, là, c'est
forcément,
mort. Moi, j'y arrive pas.
Voilà. Donc, clairement, il faut s'y préparer un petit peu. Voilà. Il faut bien se renseigner, savoir ce qu'on demande au test. Et c'est vrai que ce petit passage de latère à cheval ou de sauter à cheval est un exercice que nos instructeurs aiment bien faire parce que, voilà, tout de suite, ça permet de poser le problème.
Voilà. Et pourquoi des selles français, du coup?
Alors,
c'est pour le côté
ouais, bonne question
made in France, entre guillemets, jusqu'au bout,
on n'avait pas pensé à ça tout de suite. Ceci étant dit, il doit y avoir des races à l'étranger qui sont tout à fait capables de faire ce travail. On a des exemples avec nos amis anglais, hein, qui ont une cavalerie encore robuste et qui sert à peu près comme nous, à la fois les honneurs et puis la sécurité. Voilà, alors selles français parce que c'est traditionnellement le cheval de la cavalerie française, hein, depuis Napoléon, hein, et les haras nationaux. C'est une race qui a été fabriquée à la base comme cheval de guerre, qui permettait à la fois de traverser l'Europe et en même temps, de faire une belle charge. La cavalerie française est appelée la reine des batailles. Pas pour rien, hein, voilà, ça faisait des gros dégâts. Et donc, c'est des grands chevaux, bien porteurs.
Et il y a des élevages, du coup, qui sont spécialisés, entre guillemets, pour des chevaux pour vous, avec le cahier des charges pour vous?
Alors, on n'a pas d'élevage attitré. Ça, c'est la loi des marchés publics qui ne nous permet pas ça.
C'est un appel d'offres.
Exactement.
Classique.
Tout
d'accord.
À fait. On passe par un appel d'offres et les éleveurs répondent à cet appel d'offres. Alors, c'est un peu compliqué parce que, clairement, on est assez peu compatible avec l'équitation de loisirs. Nos éleveurs, pendant très longtemps, ont repris cette race du sel français, mais en l'adaptant au cheval de loisirs, au cheval de compétition aussi. Hein. On se souvient de très grands noms, hein, de chevaux qui ont gagné de belles compétitions et qui étaient des sels français, mais qui n'ont rien à voir avec les modèles que nous, on recherche. Voilà. On va tomber sur des chevaux plus petits, beaucoup de sang, voilà. Nous, on ne cherche pas ça.
Oui. Parce que vous, en gros, vous cherchez donc du grand cheval.
Ouais, un modèle, un
beau
modèle.
Au niveau robe aussi, j'imagine que vous avez des
Alors,
contraintes.
Alors, on a des contraintes de robe, oui. On a au régiment, les escadrons sont remontés, chacun avec une robe. Au premier escadron, on a les chevaux jaunes, les alezans. Voilà, on les appelle les jaunes.
Pas les roux.
Non, pas les roux, on les appelle les jaunes. Voilà. Deuxième escadron, on va avoir les chevaux B. Et au troisième escadron, il se faut au Bébrun. Ça fait quand vous regardez le régiment descendre des Champs-Élysées à la télévision, vous voyez un dégradé de robe qui est assez esthétique.
Du coup, votre cheval, à vous, il est de quelle couleur?
Moi, c'est un jaune.
C'est un jaune.
Jaune. Il est alezan parce que j'ai toujours été au premier escadron. Alors, j'en ai eu quelques-uns. En 28 ans de carrière, j'ai eu la chance de pouvoir monter 5 chevaux là.
5 chevaux, d'accord. Ouais. Oui, donc vous les avez quand même pour des périodes longues. quand on vous les confie ?
On les a sur des périodes plus ou moins longues. On essaie quand même, quand les cavaliers sont dans le rang, quand ils sont en escadron, on essaie de maintenir le couple cheval-cavalier un maximum. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Globalement, une mission, un cheval, un cavalier, c'est une espèce de leitmotiv qu'on essaie de maintenir. Bah, tout simplement parce que le cavalier, et on va venir au cœur de notre sujet là, c'est le cavalier, nous... Une relation avec son cheval qui est importante et qu'on recherche chez nous. Le cavalier connaît bien son cheval, à force de le monter, de le travailler, de le mettre à sa main, il va anticiper ses réactions. Clairement, dans les missions, c'est une énorme plus-value. Donc, on va essayer de maintenir ce couple-là le plus longtemps possible. C'est tout notre intérêt. Après, il y a des aléas de la carrière qui font que le cheval
se blesse,
voilà, tout simplement. Ouais. Il a une blessure, on va le réformer pour blessure. Bon, voilà, ça écourte sa carrière. On va devoir s'en séparer.
L'âge aussi, j'imagine.
L'âge, absolument. Le cheval a fait une carrière plus courte que la nôtre. Nous, on présente nos chevaux à la réforme à 16 ans. Dans l'année de ses 16 ans, il est présenté une première fois. S'il va bien, on peut prolonger sa carrière, 1 an, 2 ans maximum. À 18 ans, de toute façon, il quitte le régiment.
Donc il rentre chez vous vers les 3 ans.
Voilà, on les achète entre 3 et 4 ans, oui. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après pour lui entre la période où il a 3 ans et puis la période où il a 16, 17, voilà. 18 ans ?
Alors il se passe pour le cheval à peu près ce qui se passe pour les bonhommes. En fait, on va le transformer en cheval militaire.
Alors là, j'écoute avec toutes mes oreilles parce que mon cheval, il a peur des cailloux parfois quand même. Alors ouais. Du coup, bon.
Alors, pour faire ça, en fait, c'est pas compliqué. On va le mettre entre les mains expertes de nos déboureurs. Quand il est acheté, il va d'abord passer exactement comme les jeunes recrues humains. Il va passer une visite médicale un peu poussée. On va l'ausculter sous toutes les coutures. Alors, on a 4 vétérinaires au régiment qui s'occupent de ça. Les radios, un examen médical poussé. Ça dure pas loin de... En tout, une semaine. On se donne une semaine avec l'éleveur pour lui dire on garde votre cheval ou on vous le rend. Les radios, on cherche... Tout ce qui est vis réductoire, le cornage, tout ça. Voilà.
Oui, bon. Je me doute, donc, vous vérifiez tous les
absolument.
Aplombs, tout. Quoi.
Quand il a son aptitude médicale, il est transporté de l'infirmerie, alors soit des Célestins, soit de Carnot, ça dépend des moments, ça s'alterne. Il est transporté de l'infirmerie vers notre centre d'instruction à Saint-Germain-en-Laye. Ça lui évite une transition un peu brutale entre la campagne, les prairies desquelles il sort, à la ville. On lui fait passer une transition pas trop rude à Saint-Germain-en-Laye. Il y a encore un peu de verdure. Donc il va passer un petit moment entre les mains des déboureurs, qui sont quand même des cavaliers, des militaires qui sont spécialisés dans cette discipline et qui introduisent assez rapidement dans le débourrage, qui introduisent des techniques et des paramètres d'éducation qui vont servir plus tard pour nos missions.
Quand vous dites, par exemple, les paramètres d'éducation,
ouais,
ça va être le bruit,
le
feu,
on va essayer de désensibiliser à tout ça, exactement.
Les gestes des gens,
oui,
par exemple, aussi.
Donc on a pour ça des petits ateliers auxquels on confronte les jeunes chevaux assez vite.
Et des astuces, du coup, moi, pour mon cheval qui a peur des cailloux, par exemple.
Il a peur des cailloux, des camions.
Des camions, alors oui, alors ouais. J'en parle même pas. Mais non, des fois, des cailloux, il me fait des écarts.
Ah, de certains cailloux.
Voilà.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi.
Alors ça peut être un souci. Quel âge il a, votre cheval ?
Il a 6 ans.
Ah, il a 6 ans. C'est les petits cailloux ou les
gros
cailloux ?
Non, c'est les gros
les rochers.
Les gros. Ouais.
Alors, si ça se trouve, il s'est cogné dedans quand il était poulain. Ça,
ouais,
c'est possible.
Ouais. Je creuserai.
Ouais, c'est possible, ouais.
Et pour les camions, alors ? Qu'est-ce que je peux faire ?
Pour les camions. Alors, en fait, il n'y a pas de recette miracle, clairement. On n'a pas inventé grand-chose au régiment de cavalerie. On s'est surtout beaucoup inspiré de ce qu'ont fait nos anciens, de ce que font aussi des gens comme M. Blondeau, par exemple. On a envoyé des cavaliers se former à la méthode Blondeau. Et après, on réadapte. Voilà, c'est souvent un peu le principe quand même. C'est-à-dire qu'on ne perd pas ce qu'on a appris de façon quasi ancestrale dans nos manuels d'équitation et de cavalerie anciens, parce qu'il y a de très très bonnes choses. Et que globalement, on réinvente des choses qui ont déjà existé finalement. Mais voilà, à chaque fois, on s'adapte et on réadapte notre technique. Il n'y a vraiment pas de secret. On essaie d'y aller doucement. Ça va durer 1 an et on prend ça dans le calme, dans la douceur. Surtout, petit à petit, on essaie de désensibiliser les chevaux à ce qui peut leur faire peur. On peut aller très loin. Il y a des chevaux qui font des choses assez incroyables chez nous maintenant.
J'avais vu lors d'un salon, je me demande si ce n'est pas au Salon du Cheval de Paris, un cheval qui sautait par-dessus une voiture. En plus, vous aviez rajouté du feu, de la fumée.
Ouais.
Enfin, vraiment le truc.
Non, c'est vrai qu'on est arrivé à... Alors ça, c'était avec... on avait travaillé avec Monsieur Loracci à un moment assez sympathique. Alors, pour être tout à fait exact, le cheval du régiment, on l'avait mis effectivement cet exercice. On est allé travailler un petit moment avec Monsieur Loracci. Alors c'était une manière de montrer précisément les savoir-faire du régiment. On cherche toujours des idées, voilà. L'idée était donc non pas de sauter par-dessus une voiture, mais de monter par le capot à l'avant et de redescendre par l'arrière du véhicule. Voilà. Et donc ça a pu être fait. Alors, pour être vraiment, vraiment honnête, le jour de la démonstration, on avait dû prendre un cheval de Mario parce que le cheval du régiment qui devait faire ça était assez bêtement blessé. Il était indisponible au moment et on n'en a pas préparé 15 pour le faire. Donc le nôtre n'était pas dispo ce jour-là. Bon, voilà, c'est un peu dommage parce que les camarades qui avait préparé le cheval, avait fait ça super bien. Et ça, encore une fois, avec un peu de patience. Voilà. Bon, donc, alors tant mieux.
Voilà. Aujourd'hui, j'apprends donc que ce n'était pas un cheval de la garde républicaine.
C'était pas un cheval, c'était un peu une petite déception parce que le cheval qui le faisait chez nous était tout à fait bon. Et puis voilà. La seule difficulté sur cet exercice-là, c'est qu'il fallait mettre en œuvre dans le manège. Alors c'est toujours pareil. C'est la répétition qui fait que le cheval finit par être habitué, voilà. Et donc ça demandait de mettre en œuvre un matériel. On a commencé par un figuratif en bois qui simulait la voiture. Donc du coup c'était du matériel assez lourd à mettre en place à chaque fois. Et on n'a pas que ça finalement à faire aussi. On a les missions autour. Et donc du coup c'était un petit peu difficile à maintenir dans la durée. Le cheval l'a très bien fait. Et puis il y a eu un moment donné où on pouvait pas, il fallait passer à autre chose.
Pour les chevaux qui sont trop sensibles et qui n'arriveraient pas du coup à faire tous ces tests, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Oh, ils sont réformés, tout simplement.
Tout de suite.
On n'insiste pas. Il y a des chevaux qui vraiment se font pas à la vie militaire, exactement comme nos
comme nos humains.
On essaie de détecter ça assez vite, pour pas que ni les uns ni les autres ne soient.
Et du coup, réformé, il peut devenir un cheval de propriétaire. Moi, demain, je pourrais avoir un ex-cheval de la garde républicaine réformé.
Oui, on cherche toujours des familles d'accueil. Il y a un dispositif qui est bien en place maintenant pour la retraite de nos chevaux. Et retraite qui peut être donc un peu anticipée s'il y a un souci, effectivement. Voilà, donc c'est un dispositif qui permet. Alors, à la fois au cavalier qui s'est occupé du cheval de retrouver son cheval à la retraite, il faut remplir un petit cahier des charges qui est assez simple. Globalement, il faut avoir 1 hectare de prairie, il faut pouvoir le rentrer l'hiver, il ne faut pas qu'il soit tout seul et il faut assurer les soins.
Une vie de cheval, en gros.
Une bonne vie de cheval, voilà. Ah, et dernière chose, il faut pas en tirer davantage pécunier.
D'accord.
Il ne faudrait pas le louer. C'est tout ce que demandent les domaines, puisque les chevaux appartiennent au domaine. Voilà.
Ok, ça marche. Il y en a combien du coup des réformés par an ?
Alors par an, c'est pas compliqué. On réforme par génération à 16 ans. Donc tous les ans, on a une lettre qui disparaît avec une lettre qui arrive. Voilà, donc ça fait une moyenne d'achat, on va dire entre 20 et 30 chevaux achetés. Donc à peu près l'équivalent de réformés. On maintient cet équilibre.
Vous disiez que vous étiez 500 cavaliers. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 500 chevaux ou plus ?
Alors il y a un petit peu moins. En fait,
il y a
actuellement 480 chevaux.
D'accord.
Quand je vous dis 500 cavaliers, on n'est jamais 500 à cheval, clairement.
Jamais en même temps.
Ouais. Okay. Des gros services comme un 14 juillet, c'est 280 cavaliers.
D'accord. Voilà. Okay. Et ils font quoi les copains, les 220 autres ?
Alors il faut assurer pas mal de choses. Il y a toutes ces patrouilles que l'on fait. On assure également tous les chevaux qui sont indisponibles, les chevaux qui sont à l'instruction, les chevaux qui sont précisément réformés qu'on attend de faire partir. Bah, tous ces chevaux-là, il faut quand même s'en occuper. Ils sont dans les écuries pour arriver à aligner 280-300 chevaux. Il y a un petit turnover.
Une petite logistique autour.
Il y a une centaine de chevaux qui effectivement ne sont pas sur les rangs, les jeunes, les très vieux, les malades, voilà.
On a évoqué le 14 juillet. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment se vit un 14 juillet quand on est garde républicain ?
Un 14 juillet, c'est un petit peu l'aboutissement de l'année de travail pour un cavalier au régiment.
Comment sont choisis ceux qui vont faire le 14 juillet ?
Tous les cavaliers des escadrons de marche vont faire le 14 juillet en fait, dans les escadrons. Il y a peu de personnel qui ne vont pas le faire. On n'a pas une grosse sélection à faire. Voilà, quand on est dans le rang, on sait qu'on va faire le 14 juillet. Donc c'est un moment attendu et c'est un moment qui se prépare. Évidemment, les émotions ne sont pas les mêmes entre ceux qui ont déjà fait une vingtaine, comme moi, et puis celui qui fait son premier. Mais quelque part, il y a quand même toujours les mêmes... Il y a d'abord les mêmes gestes, les mêmes frissons, ouais, quand même.
Ça commence à quelle heure pour vous ?
Alors, au Célestin... ça commence un tout petit peu plus tard qu'à Carnot. À Carnot, les cavaliers qui sont au 2e et au 3e escadron ont une heure de route pour nous rejoindre au Célestin.
D'accord.
Tout le monde va partir des Célestins. Il y a une grande prise d'armes avant. et on se regroupe au Célestin et on se met sous les ordres de notre colonel commandant le régiment. On rend les honneurs à l'étendard, hein, et ensuite le régiment se met en branle pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe. Donc ça commence tôt pour les camarades qui sont à Carnot. Ça, je pense que l'appel doit être à 4h30, 5h pour eux.
À cheval, du coup ?
L'appel aux écuries. Hein, ça veut dire qu'il faut être présent. Hop, on prépare son cheval, ça va assez vite. Les prises d'armes au Célestin sont à 8h. Les camarades vont arriver presque une heure avant. Ils vont partir vers 6h du quartier Carnot. Donc pour ça, il faut être aux écuries à 4h50, je pense.
Marche.
Voilà.
Okay.
Donc c'est de bonne heure. Et ça fait un service. On rentre à l'écurie, il est 13h. C'est
du coup, une vous bonne partez... matinée de... Oui, c'est clair. Un beau voyage. Vous partez des Célestins, vous mettez en route vers les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis ? Alors j'imagine qu'on fait tout pour qu'il n'y en ait jamais, mais est-ce qu'il y a quand même des anecdotes où ça ne se passe pas comme on avait prévu ?
Il y a toujours, il y a toujours sur le nombre. Et depuis le temps que le régiment fait son 14 juillet, il y a toujours le risque d'une glissade. À ma connaissance, j'ai pas eu écho d'accident grave le jour du 14 juillet.
Personne n'est tombé, par exemple.
Ah, tombé, si.
Si, arrive, malgré tout.
Ah, oui, ça arrive, On a quelques images, maintenant, avec Internet, on retrouve ça. On a quelques images de glissade, y compris devant la tribune présidentielle, au moment où le régiment se sépare en deux parties.
Okay.
Alors, vous avez toujours le jeune cheval qui fait son premier 14 juillet, qui ne sait pas trop s'il suit les copains de gauche ou les copains qui sont à droite,
ouais,
et qui hésite entre les deux, puis finalement qui se fauche.
Il s'en mêle, ouais. Okay.
et qui tombe avec son cavalier. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose, c'est comme ça. Ça arrive, ce qu'on espère, c'est que personne ne se blesse. En général, ça se passe bien. On n'a pas d'exemple, encore une fois, d'accident grave à ce moment-là.
Moi, bêtement, dans ma reprise, on m'a toujours appris qu'il y avait quand même une distance de sécurité avec le cheval de devant
au cas où.
Et là, vous êtes hyper compressé, parce que vous êtes tête à queue, quasiment.
Oui, on est assez près des uns des autres. Il y a quand même des distances réglementaires. De mémoire, il y a 1m60 avec le cheval qui est devant. Voilà, il y a un petit peu de distance quand même. Ça, c'est des formations. Alors, on s'entraîne pour ça. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'école des squads. L'école des squads, c'est un apprentissage pour les cavaliers et pour les chevaux. Bon, le cheval, naturellement, avec son instinct grégaire, ça ne le dérange pas d'être empaqué. Au naturel, c'est un paquet qui peut paraître un petit peu désordonné, mais il y a quand même bien une hiérarchie. Donc c'est quand même organisé. On suit généralement la vieille jument, la jument de tête. C'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va l'organiser un petit peu au niveau du régiment pour pas que ce soit un paquet de style hard. Ce serait pas correct. Donc voilà, on organise ça hiérarchiquement. Qu'un cheval de tête, on va prendre un cheval qui est un petit peu dominant, qui va être devant et que les autres vont suivre.
Est-ce que le cheval dominant est le cheval d'un haut gradé ?
C'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'un colonel qui choisit son cheval, il va effectivement,
dans
les critères,
il
ne peut pas prendre un cheval qui ne peut pas être en tête. C'est un métier. Un cheval de tête, c'est un métier. Et clairement, si le colonel choisissait un cheval qu'on appelle suiveur, c'est-à-dire que son nom l'indique, c'est le cheval sympathique, mais qui va plutôt suivre les copains.
Il doit être derrière.
Voilà, donc celui-là, il faut qu'il soit derrière. Et tous les chevaux ne peuvent pas être en tête, clairement. Il y a des chevaux qui font des demi-tours parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de mener la troupe. Et donc, ceux-là, il ne faut pas les mettre en tête.
Ouais,
voilà.
Okay.
Ça, c'est un travail aussi de...
Oui, de repérage, parce que
repérage,
vous devez
observer
le comportement de chaque cheval.
Tout à fait.
Donc, vous devez tous les connaître très, très bien, en fait.
Et il faut connaître ces chevaux, oui. Ouais. Dans une unité, plus on monte dans la hiérarchie et plus, finalement, il faut connaître les chevaux ou se fier à ceux qui connaissent bien les chevaux. Ça, c'est le travail quand même dégradé du régiment, de ceux qui restent longtemps en place. Ils doivent bien connaître leur écurie, bien connaître leur personnel, leurs chevaux, pour pouvoir, comme je vous le disais au début, former ce couple cheval-cavalier. Ça, c'est valable de la tête du régiment jusqu'au jeune garde qui est arrivé, qui fait son premier 14 juillet. Chacun doit bien avoir sa place et son cheval. Voilà.
Du coup, dans la connaissance de vos chevaux, est-ce que vous avez des séances à pied, ou c'est vraiment que du travail monté, le temps que vous passez avec lui au niveau pensage, etc., est-ce que c'est la même chose qu'un cavalier civil comme moi peut faire ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre, en termes de relation. Je mettrai quand même une petite nuance. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ce sont des chevaux qu'on nous confie. On en est les dépositaires, mais on n'en est pas les propriétaires. Et comme nous sommes militaires, il faut faire un petit peu attention qu'effectivement, il faut avoir en tête toujours que ce cheval-là, on nous le confie à un moment, mais ce n'est pas le nôtre. Voilà. Et donc, alors on s'y attache, et ça c'est certain, et il faut certainement s'y attacher. Mais il ne faut pas perdre de vue que, voilà, on est dans un dispositif, on a signé un engagement. Et dans cet engagement, dans le contrat, ce n'est pas forcément écrit, hein, c'est tacite, mais dans ce contrat, on accepte l'idée que le cheval, peut-être qu'il va... la hiérarchie va en avoir besoin ailleurs et il va être obligé de prendre une décision qui est parfois un peu difficile à vivre parce qu'on se sépare d'un cheval. Ça fait partie du métier. Il faut l'intégrer assez vite quand on est jeune garde et quand on arrive au régiment. Ça, c'est aussi le rôle des anciens d'expliquer ça aux jeunes cavaliers. En disant, on va te confier un cheval, mais attention.
N'oublie pas.
N'oublie pas. Voilà, c'est pas ton cheval. D'abord, c'est...
Traite-le comme si, mais n'oublie pas.
Exactement. Okay. Hein, et donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, je dirais que c'est un petit peu plus difficile au régiment de cavalerie que dans le civil. Parce qu'il faut que le cavalier fasse comme si c'était bien le sien pour avoir les sentiments qui vont bien et pour précisément... mais pas trop mettre non plus de sentiments pour que ça reste efficace aussi et que, on a une mission... Et cette mission, parfois, elle implique de se séparer du cheval.
Eh oui. Et vous avez gardé des contacts avec vos anciens chevaux, du coup ? Vous allez les voir régulièrement ?
Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup de contacts. Sur les 5 chevaux que j'ai eus, physiquement, je ne peux pas avoir de contact avec 4 parce qu'ils sont, ils sont morts. Donc,
okay.
Ceux-là, je sais que... voilà.
L'histoire est finie.
Voilà. Mon dernier, il est mort en plus en unité. Il avait une malformation cardiaque. Il a fait une crise cardiaque dans son box.
C'est possible, ça, du coup.
Ouais. Il est mort très, très brutalement. Et à l'autopsie, ils ont découvert qu'il avait un ventricule gauche aussi épais qu'un talon de jambon. Alors, le vétérinaire n'avait jamais vu ça. Et il expliquait que ça aurait pu lui arriver n'importe quand, en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'était surprenant de voir ça.
Vous avez quand même dit qu'il y avait une autopsie pour les chevaux de la garde républicaine.
Là, en l'occurrence, oui, il y a eu une autopsie parce que ça a été quand même très brutal. Et,
personne n'a compris, donc vous avez voulu
comprendre.
Personne
n'a compris ce qui s'était passé. Okay. Voilà, alors ça, c'est aussi une autre facette de notre régiment. Donc, je vous disais qu'on avait 4 vétérinaires et ces vétérinaires font partie du service santé des armées et... Ils ont, en l'occurrence, sur Paris, ils ont des liens assez forts avec Maison Alfort, qui est une école vétérinaire.
Okay.
Et du coup, avec ce partenariat, permet pour comprendre la physiologie, l'anatomie des chevaux, etc. Ils ont des partenariats et ils ont pu pratiquer une autopsie pour comprendre ce qui s'était passé.
Ok.
Voilà.
Et le dernier, alors ? Est-ce que c'est
une belle histoire ? Ça, c'était mon dernier. Mais
donc, le cinquième, il est toujours
avec
vous, là. D'accord.
Alors, il n'est pas avec moi parce que j'ai quitté l'endroit où le cheval était affecté.
OK.
Voilà, ce cheval-là était attaché à un lieu. C'était, je le partageais avec mon adjoint. Hein, j'étais chef de poste dans un poste à cheval. Et je partageais ce cheval avec mon adjoint. Ça arrive aussi, à certains moments, on peut devoir partager le cheval. On n'est pas tout seul sur le cheval, on est en binôme. Alors ce cheval-là, Quanon, alors c'est pas nous qui choisissons les noms, Quanon, lui, c'est pareil, c'est un cheval qui prend de l'âge là maintenant, mais il va rester en poste à cheval, c'est un cheval qui va plus servir dans le rang. Donc moi, comme je suis rentré à l'escadron, le cheval, lui, est resté en poste à cheval. Voilà.
Ok, donc, ça marche.
Il continue sa petite carrière.
Tout va bien.
Mais tout va bien. Ouais.
Super.
Ouais.
Ouais, ça doit faire plaisir quand même, j'imagine, d'avoir des nouvelles du cheval qui n'est pas le sien, mais quelque part, c'est un peu son cheval.
Oui. Là, sur le stand, tout à l'heure, s'est présenté une petite famille qui, justement, est famille d'accueil. Et alors, elle a donné des nouvelles de 2 chevaux haletants qui ont été réformés il y a un an. Et ça fait vraiment plaisir de voir les chevaux comme ça en photo avec des familles. Alors on les voit, ils sont au pré, ils ont des crinières qui touchent le sol.
Des gros ventres,
peut-être. Ils sont montés à cru par les enfants. Enfin, c'est vraiment un grand bonheur que de voir cette deuxième vie là après le service. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces chevaux comme ça. Ouais.
Est-ce que la vie en service, est-ce que vous vous spécialisez dans des missions ou est-ce que théoriquement tout le monde doit savoir tout faire ?
Alors, il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut passer sa carrière dans le rang. Quand je dis dans le rang, c'est dans un escadron. Et on va suivre une carrière qui va nous permettre de toucher un petit peu à tout, finalement. Et c'est une solution qui satisfait beaucoup de monde parce que elle permet, pourquoi pas, de faire un petit peu de CSO, de monter un petit peu en CSO. Si on n'est pas trop maladroit, on peut même faire un petit peu de compétition. Alors, c'est dans les conditions sont... c'est souvent sur les jours de repos, mais le régiment permet à certains cavaliers de sortir des chevaux en compétition. Ça permet quand même de faire rayonner un petit peu l'image de la garde sur les concours régionaux. Voilà, ça c'est pas mal. Il ne faut pas perdre de vue que la base, c'est la sécurité publique à cheval et les honneurs. Voilà. Donc ça, c'est la base. Après, il y a quand même quelques spécialistes chez nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, y a des déboureurs. Des gens qui se spécialisent dans le débourrage. Il y a des gens qui vont se spécialiser aussi dans la sécurité publique. Ça a été mon cas pendant 15 ans. Voilà, j'ai fait que ça pendant 15 ans, de la sécurité publique à cheval. Et donc, j'ai, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on développait vraiment cet aspect-là de la mission.
D'accord. Voilà. Donc c'est possible. Vous avez aussi Absolument. Le choix dans vos aspirations de
fait.
Dire « je préfère ça et je suis meilleur là-dedans ».
Oui,
donc, j'y vais.
Oui, tout à
D'accord.
fait.
D'accord. Est-ce qu'il y a une journée type pour un cavalier de la garde républicaine ? Peut-être suivant les saisons ou suivant les événements ?
Oui, c'est vrai, il y a plusieurs journées types. Le travail reste varié quand même. Il y a une journée normale qu'on va appeler présent aux écuries. Voilà. Alors cette journée-là, elle commence à 7h. On nourrit les chevaux. On est plusieurs dans l'écurie. On va s'occuper donc de l'ensemble de la cavalerie d'un peloton.
Ça fait combien de chevaux à peu près ?
Ça fait entre 25 et 30 chevaux. On va être en ce moment, pour s'occuper des 25-30 chevaux, on est entre 5 et 10.
D'accord. Voilà,
parce que le reste, il est soit en repos, soit en permission, soit malade, soit en mission ailleurs, détaché dans un autre service. Donc ça va faire une moyenne de 3-4 chevaux à s'occuper.
Par personne, oui.
Voilà,
okay.
Par personne. Alors quand je dis à s'occuper, ça veut dire les travailler, bien sûr, s'ils sont aptes au travail, mais ça veut dire aussi les soigner, évidemment. On peut emmener un cheval à la forge, emmener un cheval à la visite médicale, visite vétérinaire. Donc tout ça, c'est le quotidien d'une journée, j'allais dire, assez similaire à ce que l'on trouve dans les centres équestres pour les cavaliers professionnels qui organise la vie d'un centre équestre, quoi. C'est assez similaire. On va faire le fumier le matin, payer les stalles et les box.
La vie d'une écurie, vraiment, quoi.
Voilà, tout à fait. Entretenir le cuir, etc. Voilà. Et tout de suite derrière, on va avoir... alors, au moment du travail monté, on va avoir différentes possibilités. Soit on est un jeune cavalier et on va suivre une instruction précisément d'école des squads. On va se retrouver avec les jeunes de l'escadron,
D'accord.
avec un ancien adjudant comme moi.
Okay.
Et l'adjudant va faire travailler les jeunes avec des vieux chevaux. En général, on essaie de faire ça.
Okay.
Mettre de jeunes cavaliers sur un vieux cheval et puis inversement, un cavalier d'expérience sur un jeune cheval. Voilà. On va essayer également, à ces occasions-là d'école des squads, on va essayer de mixer aussi des vieux chevaux pour éduquer des jeunes chevaux. Alors on va travailler par trois d'abord, on va mettre le jeune cheval, alors ce qu'on appelle jeune cheval chez nous c'est après le débourrage, le cheval entre 4 et 5 ans,
ouais.
Voilà, entre 4 et 5 ans, il va être accoutumé voilà, aussi à rester en place un moment immobile, à suivre ses congénères par deux, par trois, aux deux allures du service, le pas et le trot.
Vous galopez très peu au final en service.
Pendant le service, oui, assez peu. Ouais. Oui.
Si, c'est une allure de travail à la maison, quoi.
Il y a un moment qui est assez prisé, c'est la charge.
Ah oui.
Voilà, là, on galope. ça arrive pas
ça, c'est
très
pas
souvent.
Mal, ouais.
Ça arrive pas très souvent, malheureusement. On n'a plus la possibilité, faute de moyens, faut être clair, on n'a plus la possibilité de partir en bivouac. Voilà, ça, c'était un rendez-vous pour les escadrons qui était à un moment assez important de cohésion, de... retrouver justement un petit peu nos traditions de cheval d'armes. C'était l'occasion pour nous de se mettre à la disposition d'un groupement, d'une compagnie de gendarmerie départementale. On leur proposait de faire quelques patrouilles de surveillance dans des endroits où eux ne vont pas trop, zone boisée par exemple. Voilà, ça dure une semaine et c'était fini par une charge. Voilà, traditionnellement, fameuse charge de cavalerie. Alors, c'est compliqué de trouver des terrains pour charger. Donc, souvent, ça termine sur un hippodrome. C'est quand même là qu'on peut galoper le mieux, à peu près en sécurité pour tout le monde. Et donc, voilà, mais c'est un très,
très... Ça doit être hyper impressionnant. Ah, si on très, est à pied en face, ça doit être hyper
impressionnant. C'est un très beau moment. Hein, ça, c'est un moment qui marque une carrière, clairement. Oui, oui.
Et du coup, une journée type en mission, ça ressemble à quoi ?
Alors, en mission, on va parler de mission de sécurité publique à Paris, par exemple.
Oui, par exemple. Hein,
On va arriver le matin aux écuries. On a une patrouille à faire aux Tuileries. Voilà, donc on va avec l'ensemble des camarades qui sont présents, on va participer toujours aux corvées du matin, hein, sortir le fumier, repailler, etc. Et puis, dès qu'on est prêt à partir, on s'équipe. Et là, on va utiliser une tenue de service courant. C'est la tenue du gendarme. On va l'équiper en fonction des saisons, bien sûr. Et on va s'armer, évidemment. On va se protéger avec un gilet pare-balles. On va prendre une radio.
Quoi qu'il arrive, vous mettez un gilet.
Absolument. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Là, maintenant, ça fait partie de la tenue. Hein. Il n'y a pas de... Ouais. Donc, gilet pare-balles. Et on s'équipe donc avec carnet de timbre-amende, par exemple, avec une radio. Et on se met en contact avec l'arrondissement dans lequel on va travailler.
Ouais, ok.
Et on prend contact avec la station directrice des arrondissements sur lesquels se trouve l'itinéraire de la patrouille, voilà.
Ouais, d'accord.
Et voilà, on est parti sur la surveillance générale. Alors ça peut durer jusqu'à 4 heures, au pas.
Maximum ?
Oui, c'est bien. 4 heures en ville, c'est bien. Hein, c'est fatigant pour le cheval. Hein. Bon, le cavalier, on pourrait faire un peu plus, c'est vrai. Ça nous arrive de faire plus. Mais enfin, pour le cheval, dans la circulation, c'est bien. Ouais.
Est-ce que lui, il a des éléments de protection ? Parce que vous, du coup, vous avez un gilet ?
Oui. Ce qu'on met sur nos chevaux, on a des protections guêtres, protège-boulets. Si on descend un trottoir ou si on... Voilà, quand je blesse. On va mettre... en hiver, on va choisir des couvre-reins réfléchissants, hein, pour être bien, bien vu. Globalement, on a besoin que de ça parce qu'on est là, dans ces missions de sécurité publique, essentiellement pour faire de la prévention, du renseignement, très efficace à cheval. Et là, on en vient pourquoi utiliser
du cheval,
voilà pourquoi
du coup,
utiliser le cheval, ouais. Y compris en ville, parce que quand on est à cheval,
on est
très bien vu et on voit beaucoup plus loin que quand on est à pied. Ça, c'est des premiers avantages, un avantage pratique et tactique, hein, qui permet de renseigner en fait sur ce qui se passe. Alors, on renseigne sur l'ambiance générale du moment, on renseigne sur la présence ou non de personnes indésirables, pickpockets ou autres. On peut indiquer des directions de fuite quand on arrive et qu'on voit tout ce petit monde s'en aller.
Puis ça fait un lien, j'imagine, avec le public voilà. Non hostile, comme vous dites.
Absolument. Alors, et ça, c'est la deuxième grande force que nous avons quand nous sommes à cheval en ville ou dans les zones rurales. C'est qu'on n'a pas besoin de chercher le renseignement. C'est le renseignement qui vient à nous et le vecteur, c'est le cheval. C'est-à-dire que les gens s'approchent pour, au départ, caresser nos chevaux, parler avec nous des chevaux qu'on monte. Et du coup, nous, on en profite à ce moment-là pour recueillir du renseignement sur l'ambiance.
Mais alors, les photos qu'on voit, et là, je pense à un public bien plus hostile, de chevaux qui ont des genouillères, qui ont des visières, c'est la police, du coup ?
Alors ça, c'est pas nous. Okay. Oui. Notre doctrine d'emploi arrête notre action au moment où ça dégénère. Voilà, nous,
et là, vous passez la main, en gros.
Oui, tout à fait.
Quelle est la différence, du coup, entre la gendarmerie et la police ?
La différence principale, c'est cette fameuse doctrine. Actuellement, nous, au régiment de cavalerie, on emploie les chevaux face à une foule non hostile, a priori calme. Quand on est sur les stades, quand on est sur la sortie de supporters, etc., on est dans ce cas typique, hein, d'une foule qui, a priori, n'est pas hostile aux forces de l'ordre et qui, en principe...
D'être guidé. Mais...
Voilà, a simplement besoin d'être orienté, guidé. Ça peut dégénérer. On a déjà vu des foules de supporters qui s'échauffent, etc. Et dans ces cas-là, on va maintenir une certaine pression. On a un certain nombre de mouvements d'ensemble qui nous permettent de maintenir une certaine distance entre nous et cette foule qui change d'attitude. Hein, et rapidement... On va demander la relève avec des unités de maintien de l'ordre normal, CRS, compagnie de CRS ou gendarmerie mobile. Voilà, parce qu'on n'ira pas à la confrontation physique avec...
C'est pas votre rôle.
Voilà. Okay. Voilà. C'est en tout cas pour le moment, c'est pas dans notre doctrine. Ça se fait, hein, y a des endroits où ça se fait. Bon, pour le moment, nous, on estime que c'est un petit peu compliqué parce que voilà, nos chevaux sont lourds. Si on commence à charger une foule, ça fait des dégâts. Hein.
Parce que du coup, les chevaux de la police sont différents des vôtres ?
Pas tellement en termes de modèle. Ils ont des chevaux un petit peu plus éclectiques parce qu'ils n'ont pas la même structure que nous. Hein, ils sont un petit peu moins nombreux. Voilà, eux, ils peuvent s'engager sur d'autres types de missions. Ils expérimentent aussi un certain nombre de choses parce que c'est finalement, même s'ils ont plus de 20 ans d'existence aussi, hein, ils expérimentent un certain nombre d'autres possibilités d'emploi. Voilà, bah après, ça, c'est leur... C'est leur façon de faire.
Ouais, ça marche. On s'approche de la fin de l'interview. Est-ce que vous êtes la section de gendarmerie préférée des Français ? Vous le savez, ça ?
Oh, bah, j'espère.
Là, sur un salon, là, comme ça, vous sentez que les gens vous aiment ?
J'espère qu'on est préférés. Oui, ouais.
Ils viennent vous voir.
Non, mais écoutez, ouais, oui. Ce qui est certain, c'est que ça fait plaisir d'être au contact, là, comme ça, d'une population qui quand même globalement est acquise à notre cause. Clairement, on sent qu'on a une petite place particulière dans le cœur de en tout cas de ces Français qui viennent nous voir sur le salon, c'est sûr. Après, je pense que plus général, si on quitte un petit peu le monde équestre, on le voit nous dans nos missions au quotidien, au contact de nos concitoyens, on sent que clairement, effectivement, les gens aiment nous voir et voilà, on a une place, certainement une bonne place, pas très loin de celle de la place que les pompiers peuvent avoir. Hein. Ouais. On est un petit peu derrière sans doute, mais on ne doit pas être très très loin derrière.
Non, moi je pense que vous êtes devant.
c'est gentil. Je prends, hein, c'est un bon compliment, mais voilà, je crois que pour avoir
ça
vécu un grand nombre de 14 juillet, je pense qu'on n'est pas très loin derrière, voilà, les pompiers. Okay. Voilà, qui sont,
vous êtes premier dans les cœurs des cavaliers.
Des cavaliers, sûrement. Ouais, c'est possible,
je
ça.
Je pense. Ouais. Dernière question, et ça va être notre mot de la fin.
Oui.
Si je vous dis le lien entre un cavalier et son cheval, quel est le premier mot qui vous viendrait à l'esprit ?
Ah, j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit.
Le
regard, moi je dirais le regard. Voilà, quand,
le regard,
ouais,
ok.
Ouais, quand, moi j'aime bien appeler mon cheval là, quand j'arrive à l'écurie. J'appelle mon cheval et je le regarde. Et je cherche un peu à savoir s'il me regarde aussi. Voilà. J'aime bien savoir si mon cheval m'a reconnu. Et je crois que c'est dans le cœur d'un cavalier, quand il arrive aux abords de son cheval, s'il sent que son cheval le reconnaît, ça lui donne une vraie satisfaction le matin. Je crois que j'irai le regard parce que après il y a plein de choses. Hein, ouais. Mais dans le lien, le regard. Ouais.
Super.
Voilà.
Bah, écoute, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci Jean-Philippe, et puis salon.
C'était un plaisir.
Hello à nouveau, c'est la fin de notre épisode « C'est pas sorcier, les services et les honneurs ». J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur un corps de cavalerie qui fait l'admiration de petits et des grands. Hors micro, Jean-Philippe m'a confié des anecdotes très drôles ou très émouvantes, alors au prochain salon où vous les croiserez, allez leur parler. Sous cette tenue militaire se cachent des hommes et des femmes au grand cœur et avec beaucoup d'humour. Si cet épisode vous a plu, parlez du podcast autour de vous et puis mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt.